Alors bonjour à tous les auditeurs d'Aligre FM. Nous sommes en direct samedi 16 mars 2024 sur 93.1 pour une nouvelle émission de Philosophie au présent, la voix du Collège international de philosophie. Dans le studio, avec moi pour animer cette émission, Michele Saporiti. Bonjour Michele.
Bonjour chère Stéphanie, bonjour.
Mais également, et c'est une nouveauté, une élève de terminale du lycée Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, Lital Benetas. Bonjour Lital.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une philosophe, politologue, journaliste, mais aussi une des grandes voix de la radio, Géraldine Mühlmann. Bonjour Géraldine.
Bonjour, merci de cet honneur que vous me faites. Je suis très contente d'être là.
Alors, c'est surtout un grand honneur pour nous, vraiment. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. D'habitude, je vous écoute sur France Culture dans Avec Philosophie. Et voilà, vous êtes là avec nous et c'est absolument formidable. Nous nous réjouissons de pouvoir parler directement avec vous de votre travaux philosophiques. Alors Michele, de quoi est-il exactement question aujourd'hui ?
Ah bon, Stéphanie, avant tout, j'ai l'immense plaisir d'introduire notre invité qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc bon après-midi, Géraldine Mühlmann.
Merci, vous aussi.
Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous à Philosophie au présent. Géraldine Mühlmann, vous êtes normalienne ? Agrégé de philosophie et de sciences politiques. Vous êtes professeur à l'université Paris Panthéon Assas et depuis septembre 2022, vous êtes la productrice de l'émission quotidienne Avec Philosophie qu'avec Stéphanie j'écoute presque chaque jour. Donc merci,
merci
sur France Culture. Alors vous avez discuté une thèse, j'aimerais bien le mentionner, sur la figure du journalisme en démocratie avec sous la direction d'une figure très importante pour le Collège international de philosophie. Philosophie, Miguel Abansur,
oui.
Qui a été président du Collège international de philosophie de 1985 à 1987.
Et qui nous manque beaucoup.
Et qui nous manque énormément.
Il a disparu en 2017, il nous manque beaucoup.
Merci pour l'avoir rappelé, Géraldine Mühlmann. Et alors aujourd'hui, notre émission a pour titre « Philosophie, politique et réalité », Stéphanie. Et qui sont trois concepts qui sont au centre des deux travaux de Géraldine Mühlmann qui nous sont sur le point de discuter. Et alors, dans la première partie, on va interroger comment on peut identifier la réalité à travers un certain approche critique et, j'ajoute aussi, philosophique du journalisme. Et dans la seconde partie de l'émission, on va explorer un concept, ou plutôt une catégorie, une notion qui pourrait sembler assez complexe à comprendre, c'est-à-dire le théologico-politique, une catégorie que Géraldine Mühlmann a étudiée en profondeur pour en expliquer les immenses conséquences que certaines théorisations ont sur la compréhension de la réalité. Mais maintenant, nous ouvrons les danses, Stéphanie, donc c'est à toi.
Alors, avec vous, Géraldine Mühlmann, la philosophie s'interroge plus que jamais sur notre manière de comprendre le réel et de décrypter la politique, alors qu'on est abreuvé d'informations de toutes parts. Vous dites, page 141 de votre dernier livre « Pour les faits », qui vient de sortir en 2023 aux éditions des Belles Lettres, vous dites « Juger, décider, établir une option n'est facile que pour qui ne mesure pas ce qu'est le réel. Le journaliste est là pour inquiéter les décideurs trop sereins, pour faire voir ce qui n'a pas été assez vu. » Alors, pour penser et agir, on s'appuie sur des faits qui peuvent constituer des preuves et des arguments, mais on n'est pas toujours sûr qu'ils soient bien établis. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut même créer des faits de toutes pièces. Cependant, on entend parfois que les faits parlent d'eux-mêmes. Mais vous, Géraldine Mühlmann, vous commencez votre livre par dire justement qu'il faut lire les faits. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous poser cette question qui a l'air un peu simple. Qu'est-ce qu'un fait, hein ? Comment le reconnaître et pourquoi le défendre ? Serait-il attaqué, menacé et par quoi ? Géraldine Mühlmann.
Alors, ce que je dis dans ce livre, et j'essaye évidemment de le justifier, c'est que je crois profondément que les faits ont tous une dimension sensible. La factualité, c'est quelque chose qui nous touche d'abord par notre corps. Ça nous arrive. Celui qui fait l'expérience de la factualité, du fait, c'est le témoin direct et sensible. Toute la question ensuite est de savoir comment il peut transmettre cette factualité sensible à des personnes qui n'ont pas été là, qui ne l'ont pas reçu comme lui ou comme elle. Et là se pose évidemment la question de la confiance que l'on peut faire dans le témoin. Et là, je trouve que notre époque est bien rude en ayant sans arrêt une sorte de petite théorie prête à l'emploi qui est « mais de toute façon, à chacun ses faits ». On entend beaucoup cette petite musique, comme s'il n'y avait pas de partage du sensible possible. Mmh. Ce livre essaye de dire qu'évidemment, l'idée d'une impartialité réalisée parfaitement est sans doute un horizon seulement. C'est très difficile, mais c'est un très bel idéal. Et beaucoup de reporters, notamment dans l'histoire, ont essayé de mettre en œuvre cet idéal d'impartialité. Il y a du travail sur soi pour faire attention, de ne pas transmettre trop d'émotions singulières, pour transmettre une factualité quasi scientifique, pour essayer vraiment de partager le sensible. C'est bien trop rapide et bien trop confortable de croire que les faits sont absolument relatifs à chacun.
Mmh. Alors, réfléchir sur les faits, l'information, le journalisme, c'est évidemment réfléchir sur nos moyens techniques de communication. Et vous faites référence à un entretien entre Jacques Derrida et Bernard Stiegler, qui est un entretien tout à fait intéressant pour comprendre notre époque et qui pourtant date déjà de 1996. C'est un entretien dans lequel Derrida revient sur une vidéo amateur très importante dans l'histoire du journalisme, qui est celle de la violente arrestation de Rodney King en 1991. Alors, je vous cite, citant Derrida. Et Derrida dit ceci, donc c'est page 51. L'enregistrement vidéographique a pu servir d'archive, peut-être de pièce à conviction, peut-être de preuve, mais il n'a pas été substitué au témoignage. Il ajoute « On a demandé au jeune homme qui a filmé de venir lui-même attester en jurant devant des personnes vivantes qui constituaient le jury et qui étaient légitimées comme telles, en jurant que c'était bien lui qui tenait la caméra et qu'il a assisté à la scène, qu'il a vu ce qu'il a filmé, etc. » Il y a donc hétérogénéité du témoignage et de la preuve et par conséquent de tout enregistrement technique. La technique ne fournira jamais un témoignage. Et un peu plus loin, Derrida précise qu'une des raisons à cela est que la preuve technique, alors même qu'elle semble dépasser la faiblesse des témoignages humains, comporte un risque majeur de manipulation, de faux, plus grand encore et plus difficile à repérer que dans les témoignages. C'est toute l'ambivalence de la technique, possible Graal et possible cauchemar. Alors, est-ce que 25 ans après, nous pouvons faire le même constat que Derrida, hein, Derrida qui, je le rappelle, était cofondateur du Collège international de philosophie, et qu'est-ce qui a changé depuis ?
Non seulement je pense qu'on peut faire le même constat que Derrida, mais le constat s'est aggravé. Évidemment, il y a toujours cette idée qui n'est pas fausse par elle-même, que grâce à la technique, on pourra obtenir une preuve absolue d'un fait. Un enregistrement qui ne serait donc pas tributaire d'une subjectivité. Enfin, cela dit, il y a quand même une perspective, même quand on tient une caméra,
un regard,
il y a quand même un dispositif, si je puis dire, une perspective. Mais enfin, la photographie, le film, on nourrit, depuis la fin du XIXe siècle, l'espoir, l'idéal, que peut-être on atteindrait une objectivité, la saisie d'une factualité d'une manière objective, aperspectivale, comme disent certains spécialistes, au-dessus de toute perspective et asubjective, en tout cas, au-delà de tout sujet. Peut-être, ça reste très intéressant d'ailleurs, d'avoir les images de lieux où on a peu de témoignages. Il n'en reste pas moins que la photo, le film sont manipulables. C'est-à-dire qu'au moment où on a quelque chose de très intéressant comme cela, de très précieux, le risque de la manipulation est d'emblée considérable. Et c'est pourquoi, au procès des policiers qui avaient lynché Rodney King, on avait l'image, mais on a demandé au caméraman de dire « voilà, c'est moi qui ai tourné, j'ai vu ceci ». Comme si, dit Derrida, il a raison, la subjectivité du témoin, qui peut paraître a priori plus faible que l'outil technique, avait quand même une valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus important parce que des images que nous avons, beaucoup seront, nous le savons très bien maintenant, manipulées. L'intelligence artificielle est une chose redoutable. Elle peut désormais faire parler vous, Mickaël, et vous, Stéphanie, avec votre visage, votre voix, dans n'importe quelle langue, avec un accent parfait oui. et votre bouche qui s'adaptera aux mots qu'on vous fera dire. Oui. Vous pourrez dire n'importe quoi, y compris « je viens de quitter Vladimir Poutine qui a appuyé sur je ne sais quel bouton », enfin, oui. des horreurs, des
c'est
choses...
Très bon, hein.
C'est très inquiétant.
Inquiétant
ouais. On peut faire ouais. des choses... Bon, et je me dis souvent que plus encore que dans le cas de, que notait à juste titre Derrida, on se dira peut-être quand il y aura des millions d'images pas sûres qui circuleront, que le vieil instrument, vous savez, cette chose qui s'appelle un sujet, un témoin avec son corps, avec ses mmh. émotions, avec ses sensations, avec les limites de tout cela, mmh. c'est cette chose qu'on a appelée l'observateur essayant d'être impartial, on le disait à l'époque des Lumières écossaises, l'idée d'impartialité était visée, l'idée qu'on puisse être un témoin ambassadeur, c'est un des concepts que je développe pour le reporter, qui essaye vraiment d'être celui que n'importe qui serait et de voir comme n'importe qui verrait, cette chose qui est beaucoup plus artisanale, mmh. eh bien peut-être sera plus fiable et on redécouvrira les vertus du témoin honnête, du mmh. témoin qui essaye de susciter la confiance, quand on en sera revenu d'un moment technique extraordinaire mais qui va créer des choses très inquiétantes.
Alors, je me demandais justement, question un peu de professeur, est-ce que il nous manque pas justement une certaine éducation aux médias aujourd'hui, justement pour être sensible à ça, et comment est-ce qu'on pourrait, sensibiliser les futures générations à ce problème qui est quand même très important et qu'on subit.
Indéniablement, je ne sais pas quel programme éducatif construire, si ce n'est peut-être essayer de raconter notamment l'histoire du journaliste qui est si méconnue en France. Elle n'est à peu près enseignée nulle part. Moi, dans des cours de sciences politiques et théorie politique, j'essaye de lui faire droit. Mais c'est un peu mon travail de recherche, oui. Donc ça ne m'est pas difficile. Mais on ne peut pas dire que... Même dans les écoles de journalisme, je crois, il y a peu de cours sur l'histoire de la notion de fait, de la notion d'information, de news, puisque ce sont les Américains qui ont inventé cela dans la deuxième moitié du 19e siècle, puis ça s'est répandu. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment un reporter essaye de voir une situation en disant, voilà, n'importe qui serait là, que dirait-il, que verrait-il? Comment on fait ce travail sur soi? Et je pense que c'est une chose très importante qui est assez méconnue. Et en plus, c'est une profession qui a du mal à être assise sur une histoire connue, y compris de ses propres acteurs parfois. Et le public qui consomme de l'information toute la journée, bonne ou mauvaise, de bonne ou mauvaise qualité, a du mal à voir ce que j'appelle des idéaux. Parce qu'on peut critiquer le journaliste toute la journée. Moi, je suis une spécialiste. Hein, je ne crache pas sur ma télévision comme Madame Groseille dans La Vie est un nom plus tranquille. Enfin, il m'en faut peu. Je suis très critique. Mais souvent, c'est pour ça que j'ai fait cette thèse à l'époque, puis ces deux livres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est un bon journaliste? Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que c'est un journaliste qui suscite la confiance? Comment faut-il travailler pour être un bon journaliste? Et c'est cette question qui a motivé ma thèse.
Oui, c'est une question qui concerne les philosophes et les historiens. Il y a un petit peu d'enseignement, je crois, au lycée en histoire géopolitique. Hein, Lital, vous avez fait une petite initiation là-dessus, mais bon, c'est très rapide. Alors, j'aimerais maintenant qu'on écoute un passage culte de l'histoire du cinéma.
New York Herald Tribune! New York Herald Tribune!
Est-ce que tu m'accompagnes, Aaron? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où? Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo. Fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, t'es pas à Paris.
New York Herald Tribune!
Je t'en prends un.
C'est gentil.
La très belle musique de Martial Solal et Johnny Griffin du film de Godard « À bout de souffle », extrait dans lequel Jean-Paul Belmondo s'adresse à John Seberg qui vend des journaux sur les Champs-Élysées. Il lui en prend un d'ailleurs, hein, tout en essayant de la convaincre de partir avec lui. Puis finalement, alors qu'elle ne semble pas vraiment décidée à le suivre, il lui rend son journal au prétexte qu'il n'y a pas d'horoscope. Hein, elle lui demande « Mais qu'est-ce que c'est l'horoscope ?» L'horoscope, c'est l'avenir. Et justement, ce qui m'intéresse dans votre livre pour les faits, c'est dans votre chapitre sur le rétrécissement de la curiosité. Vous l'identifiez, ce rétrécissement de la curiosité, comme le fait qu'il y ait, page 97, de moins en moins d'histoires racontées et des histoires de moins en moins riches en textures factuelles. Une presse qui flatte avant tout les valeurs dominantes de son public. La remise en selle du registre du discours cadre très bien avec ce tableau, tandis que les récits deviennent de moins en moins nourris et nourrissants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la distinction entre récit et discours, hein, qui est récurrente dans votre ouvrage, qui est très importante, nous permet de comprendre justement ce rétrécissement de la curiosité auquel vous consacrez tout un chapitre, Géraldine Ullmann ?
Alors, à la fin du 19e siècle, quand les patrons de presse se sont dit qu'il faut qu'on touche plus de monde et qu'on vend davantage, comme quoi ce n'étaient pas des enfants de cœur qui voulaient faire juste du bien, ils voulaient aussi vendre, hein, tout bêtement. Aux États-Unis d'abord, puis ailleurs, ils se sont dit qu'il y a trop de discours dans les journaux de notre époque. C'est le propre d'une presse d'opinion, c'est-à-dire des discours, pour reprendre la catégorie de Bernard Genest, ce sont des prises de parole où le jeu s'exprime immédiatement. En ne cherchant pas forcément à rassembler derrière lui. Enfin, il dit ce qu'il pense, éditorial, critique, tribune. C'était ça, les formes journalistiques, avant la presse d'information. Et on a inventé la presse d'information avec ces patrons-là, en disant, mais pour rassembler plus de monde, y compris des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, il nous faudrait, parce que les publics d'opinion, évidemment, ce sont des gens qui sont plutôt d'accord entre eux, qui lisent des choses qui leur plaisent. Si on veut rassembler des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, il faut leur servir non pas des discours, mais du récit, de la narration, leur raconter le monde. Ensuite, ils en penseront ce qu'ils voudront. Peut-être même auront-ils des conflits sur les valeurs à appliquer pour juger les histoires qu'ils entendent. C'est très bien, il y aura du conflit, démocratiquement, c'est très bien. Mais il faut au moins qu'il y ait un matériau factuel narratif. Commun. Ça permettra à plus de gens de lire la même chose et par ailleurs, ça accroîtra la connaissance de la réalité, ce qui est indéniable. Et donc, je pense que ça a nourri la curiosité de facto. Hein. La presse de masse a beaucoup de défauts, souvent soulignés par les philosophes. Enfin, elle a quand même permis à beaucoup, beaucoup de gens d'avoir un accès à la réalité assez riche quand les reportages étaient bien faits, avec cette idée que le reporter donne une factualité que tout le monde peut recevoir et pas seulement ce qu'il en pense. Voilà. D'ailleurs, il fallait gommer toutes les éditorialisations. Je pense que cette période est un peu derrière nous. J'en suis vraiment plus que navrée, c'est un faible mot, hein, et que la presse d'opinion revient à grand galop. Nous avons effectivement un problème de narration, je crois. Les récits du monde sont petits, occupent une petite place par rapport au flot des discours, non seulement sur les réseaux sociaux, où on commente, on dit « je », on dit ce qu'on pense, enfin, c'est fondamentalement ça, à telle enseigne que lorsque vous voulez parfois chercher dans un réseau social quel est le fait d'origine qui a généré tous ces commentaires, tous ces « je » discourants, et parfois disant des choses intelligentes, d'ailleurs parfois non, eh bien vous avez du mal à remonter la chaîne et la boucle, et vous dites mais quel était le fait d'origine, et il y a comme un vertige qui fait que la factualité qui exige du narratif, je suis désolée, Jeannette avait raison, le récit c'est pas le discours et ça permet de donner un matériau au moins objectivable, à défaut d'être objectif, au moins qu'on fait partager plus largement, eh bien il est un peu perdu ce matériau au milieu du flot des discours, et je crains qu'entre les émissions de talk, comme on dit, aux heures de grande écoute, et l'habitude des analyses, qui sont parfois très bonnes, c'est pas la question, dans les chaînes d'infos, vous avez des tables rondes, d'heure en heure, etc. Heureusement, bon, il y a quand même un rappel des titres, et puis parfois un reportage, bien sûr, mais je trouve que dans l'économie globale des médias, le récit n'a plus la part belle, alors que c'était la priorité de la presse d'information à partir de la fin du 19e siècle.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, dans votre chapitre sur la virtualisation du monde, vous opposez deux choses, si je vous ai bien comprise. D'un côté, ce que Roland Barthes appelle l'effet de réel, c'est-à-dire une expérience forte produite par une fiction qui nous donne vraiment l'impression d'avoir vécu certains faits. Et d'un autre côté, ce que décrit par exemple un des plus grands reporters de guerre, Michael Herr, qui a couvert le Vietnam, à savoir le réel sans effet, c'est-à-dire une expérience issue du réel cette fois-ci et non de la fiction, mais qu'on garde à distance. Et je vous cite, page 17 de Pour les faits, « L'expérience corporelle de la factualité, surtout quand elle est traumatique, est souvent bien plus étrange, étrangère si l'on veut, que l'expérience produite par les illusionnistes les plus talentueux du roman ou du cinéma. Est-ce que vous diriez qu'il y a un risque de confusion entre un effet de réel produit par la fiction, en particulier la mauvaise fiction, celle du fake news, et un réel sans effet tel qu'il est recherché dans le reportage. Une confusion finalement entre des œuvres fictives qui ont la consistance de la réalité et une réalité tellement à distance qu'on ne la voit plus. Et si on risque cette confusion, est-ce que finalement on ne risque pas finalement d'entrer dans une sorte de folie collective ?
Bon, je suis très inquiète, mais pas au point de considérer qu'on est dans un risque d'hallucination à très grande échelle. Mais enfin, je trouve que l'expérience de la factualité, dans ce cas-là, effectivement, non pas d'évident, de choquant, mais de perturbant plutôt. Vous savez, bon, là j'ai pris l'exemple évidemment de choses affreuses, de massacres, mais enfin, vous avez vu l'actualité. Ça reste d'actualité aujourd'hui, bien sûr. Je pense que nous pensons plein. Beaucoup de gens ont des émotions, pensent plein de choses à propos de ce qui se passe dans le monde. Mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps, y compris médiatiquement, pour tout simplement aller sur place, voir, d'abord parce qu'à Gaza, vous le savez comme moi, ce n'est pas vraiment possible d'être un reporter qui erre longtemps, qui interroge les gens. Et ça donne un effet de réel, mais au bon sens du terme, une sensation de réalité qui exige du temps, du narratif. Bon, ça a été le cas après les kibbutz. On sait que les reporters ont pu aller dans les morgues, interroger les familles d'otages aussi. Mais c'est important, ces reportages-là, si vous voulez. C'est des moments où nous avons la sensation du réel, y compris dans son étrangeté, dans la difficulté pour nous de nous connecter. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une évidence de la réalité sensible quand elle est à distance. Elle entre doucement en nous, elle nous perturbe la nuit, on y revient. Ce temps de la narration qui fait qu'on prend conscience du monde, c'est ça, que le monde existe, il n'est pas du tout à côté de moi, mais il entre dans mes yeux malgré tout. Et ce temps narratif, cette épaisseur narrative aussi, parce qu'il faut, il y a beaucoup de choses dans la factualité, il peut y avoir des moments de suspens, il y a un temps, il y a une logique de la narration, nous manque terriblement. Et oui, je pense que nous sommes trop habitués à tout de suite dire ce que nous pensons, voulons, jugeons, estimons, considérons et critiquons. Mais ce temps-là, un peu suspendu du rapport au réel, va très mal. Et j'ai effectivement posé cette question, ce problème que j'appelle le risque de la virtualisation du monde. Mmh.
Alors, je me demandais, parce que vous avez un regard vraiment philosophique sur le journalisme. Je crois que vous avez étudié aussi aux États-Unis le journalisme. Oui. Est-ce que ça vous aide à comprendre ce journalisme ? Est-ce qu'il y a une spécificité française ? Vous aviez parlé tout à l'heure du sensible, des corps. Est-ce qu'on n'est pas peut-être, c'est peut-être caricatural, trop cartésien, nous les Français ? Est-ce que l'essence du journalisme serait davantage anglo-saxonne ? Voilà. Est-ce que vous faites des différences ?
Oui et non. Il y a évidemment des différences nationale, il est indéniable qu'une culture assez empiriste, comme celle des Américains et des Anglais, a un rapport plus aisé à la figure du témoin. Après mm-hmm. tout, c'est des Écossais, vous savez, qui ont des Adam Smith et des gens comme ça qui ont inventé l'idée qu'un témoin peut essayer de viser l'idéal de l'observateur impartial. Mais la presse d'information a touché tout le monde démocratique. Nous, en France, nous avons eu du reportage de qualité. Nous avons même eu des formes de reportage libres sur le plan formel, parfois plus que le monde anglo-saxon, qui est davantage formaté dans l'écriture. Il nous l'envie, il nous l'envie. Et de même qu'il nous envie le maintien d'une presse d'opinion riche et riche, hein, vraiment, d'ailleurs riche y compris matériellement, elle est devenue très pauvre depuis 40 ans, mais il y a eu un moment très beau hein, de la presse d'opinion encore jusque dans les années 80, 1980, je parle du siècle dernier, et ça l'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. Je crois qu'en ce moment, tout le monde entier est touché par ce risque de virtualisation du monde, par... Il y a tellement d'infos, elles vont très vite, elles sont noyées dans les discours, la narration va très mal, et je ne pense pas que ce soit une spécificité nationale française.
D'accord. Alors, pour notre pause musicale, j'ai choisi un rappeur que notre génération connaît bien, un rappeur qui a le goût de la philosophie et de l'actualité, MC Solar. Alors, c'est pas pour parler de son dernier album qui est sorti hier, mais pour un morceau de 2003 qui s'intitule « Jardin d'Éden ». C'est l'histoire d'un reporter justement parti comme envoyé spécial pour faire un reportage sur le paradis. Mais son article finit par être censuré parce qu'il n'est pas assez sensationnel. Alors donc, la chanson se termine, il rend sa carte de presse. Voilà, donc tout de suite, MC Solar.
Chef de rubrique m'a dit, tu seras notre envoyé spécial là-bas au paradis. J'ai vu que du bonheur et puis des lacs bleutés. À chaque paysage je disais quelle beauté. Des filles se promènent accompagnées de leurs licornes. Parlent de nouvelles modes sans se soucier de leur forme. Sur la terre je faisais des bidonnages réels scoop. Une sauterelle devenait kangourou grâce à ma loupe. J'avais pris le parti d'être jugé parti. Publication judiciaire et puis c'était reparti. Mais là je veux pas troubler cet idéal. L'homme et l'animal, la femelle et le mâle flottent sur le bonheur. Parce qu'ici y a pas de peine, c'est pas la jungle urbaine, non. C'est le jardin d'Éden. Pas de peine, pas de haine, c'est le jardin d'Éden. Transparente avec des reflets d'or. Des gosses font des ricochets tandis que d'autres pratiquent le sport. Tout semble romantique dans ce tableau d'osmose. Ou sensuel comme cette brune avec des yeux roses. Ici y a pas de guerre, on n'est pas sur la terre. On ne croise pas le fer, on expulse les nérons. Y a pas de yin que de yang, pas de gang ni d'arang. Navigue avec le flot sinon Dieu te coupe la langue. On prête le prêche au prêtre, le pécheur et l'oppresseur. La septième prophétie peut-être comme le rouleau compresseur. Si les plages et les sources sont pas pleines de goudron. Pas de course à la bourse, pas de course au pôle. Il y a des montagnes magnifiques avec des neiges éternelles. Le respect de la nature tient une place surréelle. C'est un peu comme l'auberge du Bouleau Blanc. L'île de Sentinelle, le tout dans le beau temps. Article censuré, pas assez sensationnel. Je redeviens freelance, le monde est beau, la terre est belle. J'ai gardé tes photos, jardin d'Éden, je t'aime. Je rends ma carte de presse, trois petits points, F-I-N. Pas de peine, pas de haine, c'est le...
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, seconde partie de l'émission après la belle chanson Jardin d'Éden. C'est juste Stéphanie de MC Solar. Nous sommes toujours à Philosophie au présent, Radio Aligre FM, une émission en partenariat avec le Collège international de philosophie. Et nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous Géraldine Mühlmann pour notre émission consacrée à la relation entre la philosophie, la politique et la réalité. Alors, au centre de la seconde partie de Philosophie au présent, nous trouvons le livre de Géraldine Mühlmann, L'imposture théologico-politique, Les belles lettres 2022. Et pour commencer notre discussion, je voudrais lire les toutes premières lignes de ce livre, qui en langage, je voudrais le souligner aussi pour nos éditeurs, très clair et aussi des références très précise. Donc, merci pour cette, disons aussi, comme ça, style d'écriture aussi.
Hein. Merci, c'est quelque à vous chose de que.
Oui, non, c'est, il faut le souligner. Hein. Souvent, on pense à la philosophie comme quelque chose qui pourrait parler seulement à un petit public, mais avec cette clarté dans le langage, je crois que vous avez fait vraiment quite something, comme on dit. Alors, je vais lire quelques lignes de l'ouverture. Le théologico-politique est une imposture. Il n'apporte rien à la réflexion sur les choses politiques. Il ne permet pas de mieux analyser cette nuit mêlée de colère qui caractérise plusieurs démocraties contemporaines. Alors, première question, Gérald Immelmann, pour aider nos auditeurs à comprendre. Le théologico-politique, c'est quoi exactement?
Le théologico-politique, c'est une idée de philosophe, selon laquelle un tas de choses dans la politique, je veux parler par exemple de nos désirs d'idéaux, je veux parler aussi de notre rapport à l'histoire, je veux parler de l'élaboration de nos valeurs en général, beaucoup de choses, tout même, disent les tenants de l'idée théologico-politique, tout tiendrait à un legs religieux, c'est-à-dire que la politique n'invente jamais rien par elle-même. Elle est redevable pour tout ce qui est important en elle à l'égard de la religion. Une religion qui, certes, n'est plus là dans les démocraties modernes, qui se sont, comme on dit, sécularisées. Mais il y aurait cette idée, encore plus pratique, évidemment, à avancer, qu'elle fait référence à un invisible. Mm-hmm. Ça, c'est pratique pour les philosophes. Quand c'est invisible, ils n'ont plus besoin de les démontrer. Donc, on nous certifie qu'il y aurait un legs, notamment chrétien, très fort, qui serait toujours actif, souterrainement, et c'est lui qui aurait produit tous nos grands affects, qui produirait encore tous nos idéaux, même qui produirait des choses paradoxales, comme c'est la religion souterraine, encore active, qui aurait impulsé la sortie de la religion, c'est-à-dire la laïcité, la sécularisation. Vous voyez, bizarre action souterraine, tellement elle est géniale, cette religion, qu'elle aurait produit tout ce qui compte pour nous, y compris la laïcité. Je pense que c'est une construction de philosophes qui se racontent qu'ils ont trouvé le fond substantiel de la politique, qui est un vieux cauchemar, un vieux vice de la philosophie politique. On ne touche pas le fond. Hélas, d'ailleurs, peut-être heureusement, la politique est un mouvement qui s'invente, qui se réinvente. Il n'y a pas de fond, c'est un mouvement. Mais les philosophes adorent chercher le fond du politique. Et là, en ce moment, ils pensent l'avoir trouvé par un fond, disons, religieux.
Vous parlez aussi des substances religieuses.
Oui, une substance. Oui.
Une substance religieuse dans votre livre. Je vais lire un tout petit extrait, page de 251, c'est le chapitre 6. Nous avons affaire, depuis une trentaine d'années, à un mouvement philosophique qui saisit dans les choses politiques, y compris et même prioritairement dans la politique moderne occidentale sécularisée, une substance religieuse, comme ça on va reprendre ce que vous êtes entendu, en des sens variables, mais toujours jugés décisifs dans leur histoire et pour leur avenir. Alors, le désir, disons comme ça, après c'est vous de confirmer ou pas, le désir aussi d'une théorisation totale. Vous parlez, vous utilisez un mot un peu baudelairien, peut-être pas seulement, mais l'ivresse de la théorisation totale. Cette théorisation totale qui est aussi, vous le dites à la fin de votre livre, aussi une philosophie de l'histoire aussi.
Oui, je pense que c'est ça qui se joue pour les philosophes dans cette idée du théologico-politique, dans cette idée qu'il y a toujours un fond substantiel religieux aux choses politiques, c'est la fierté de toucher le fond des choses, le fond substantiel. Je pense que la philosophie doit renoncer à ce genre d'hubris, de démesure, que le désir d'une théorisation totale de l'histoire, et notamment l'histoire politique, est un vieux désir des philosophes, qui avait été pourtant dénoncé, et je l'espérais guéri, par tout un tas de philosophes qui m'ont marqué, de Michel Foucault à Hannah Arendt, donc des gens même très différents, l'école de Francfort aussi, détestaient le désir de totalité en philosophie. Ils le trouvaient volontiers suspect, ils avaient raison. Malheureusement, il y a dans beaucoup de courants de la philosophie contemporaine un retour de l'envie d'une philosophie de l'histoire qui prétend donner de l'histoire politique sa direction. son sens et son origine. C'est pareil, l'origine, ça dit la direction, notamment l'idée d'une origine religieuse. Je pense que c'est une démesure des philosophes.
Et justement, sur ce point-là, Géraldine Mühlmann, dans les quatrième chapitres de l'imposture de théologico-politique, les belles-lettres 2022, vous proposez une distinction, je trouve, éclairante. Donc, vous parlez de trois lignes de la pensée théologico-politique. Oui. Première ligne, je vais un peu reprendre vos expressions, la ligne hyper-romantique avec Richard Rorty. La deuxième, la ligne apocalyptico-messianique, Giorgio Agamben. La troisième, la ligne vieille et hegélienne. Et chaque ligne, je précise encore, se développe à l'ombre encombrante, disons, d'une grande figure de la philosophie, c'est-à-dire le dernier Bergson pour la première, le dernier Heidegger pour la deuxième, le dernier Hegel pour la troisième. Alors, pouvez-vous nous aider à comprendre cette, disons comme ça, topographie de la pensée théologico-politique que vous proposez au lecteur, Géraldine Mühlmann?
Évidemment, il est impossible dans le temps qui nous est imparti que je développe tout cela.
Absolument.
Je voulais juste dire, si certains nous écoutent, j'espère pour nous, que l'idée c'est d'essayer de proposer un diagnostic de quelque chose que je pense être une pathologie de la philosophie en ce moment. Et oui, il y a plusieurs manières de penser le religieux ou du religieux, quelque chose de religieux au fond du politique. Il y a l'idée qu'il y a des affects premiers, ça c'est la ligne hyper-romantique, que rien de grand se construit dans l'histoire politique sans un souffle et des affects religieux qui seraient encore là, peut-être encore meilleurs grâce à la sécularisation, ce qui est une pensée un peu troublante. Mais le théologico-politique aime les paradoxes. Moins la religion est présente, meilleure elle est. Vous voyez, elle accomplit mieux encore sa supposée mission politique. Il y a le pragmatisme américain est très concerné par cette ligne. Il s'était lui-même un peu guéri de cela, je pense, et puis ça ressurgit en ce moment. La ligne vieille hegélienne concerne beaucoup le dernier Habermas. Peu de gens savent que depuis 20 ans, Habermas ne parle plus que de religion. C'est incroyable ce qui lui arrive. Il pense vraiment, comme Charles Taylor, l'autre grande figure que j'étudie, que c'est la religion qui est le soleil d'où part tout le travail de l'Occident pour fonder la démocratie délibérative, avec des rites ancestraux communs, un rapport au sacré. Je pense que c'est délirant au sens où voilà, on ne peut pas expliquer le présent par ce qui s'est passé il y a 2 voire 3 000 ans. Et quant à la ligne, c'est vraiment l'idée d'une histoire longue, vieille hegélienne, où non pas la raison ferait l'histoire comme chez Hegel, mais le religieux ferait l'histoire, le piloterait les choses. Oui. Et enfin, il y a Agamben, qui est celui, assurément, qui me met le plus en colère, et c'est un chagrin en même temps. Pour Agamben, c'est l'apocalypse que nous vivons, c'était écrit depuis toujours dans l'histoire de l'Occident. Nous allons aller de pire en pire politiquement. Il le faut, parce que c'est le prix de la logique messianique. Selon lui, plus nous irons loin dans l'horreur, plus la rédemption pourra commencer, ce qui est abominable parce que ça conduit tout simplement à considérer qu'Auschwitz a abrité le début du messianisme. C'est épouvantable, quoi. C'est comme si les bonnes choses sortaient du pire. Ils ne voient pas à quel point ça justifie l'horreur. Et puis surtout, ça le conduit à reconstruire ce camp de concentration pour y voir des figures christiques, messianiques, dans certains types de déportés plutôt que dans d'autres. C'est horrible.
Oui, et maintenant, justement, la question que je vais vous poser est liée à votre critique de la reconstruction, entre guillemets, de Giorgio Agamben. Parce que déjà, dans la première partie de l'émission, nous avons très bien compris l'importance vitale des faits et de la référence précise aux faits dans votre pensée, Géraldine Mühlmann. Et ce que vous nous faites comprendre clairement, c'est la centralité des faits aussi pour la théorisation, pour la philosophie, pour que la philosophie ne devienne pas une imposture philosophique. Oui. Alors vous utilisez, je le cite, c'est dans vos conclusions, vous écrivez « Les théorisations peuvent nous abîmer dans nos existences politiques ». Et je trouve ça un peu en synthèse de beaucoup de considérations que vous avez faites. Et alors, ces propos, la question que je voudrais vous poser porte forcément sur l'auteur que vous venez de mentionner, et en particulier sous ce que vous considérez, je ne me trompe pas, je crois, si je le dis, une véritable imposture philosophique. Oui. C'est-à-dire la reconstruction, entre guillemets, qui a été faite par Giorgio Agamben d'Auschwitz, une reconstruction que vous commentez avec précision, avec colère, avec profonde inquiétude dans le huitième chapitre de votre livre. Alors, pourquoi cette colère? Pourquoi cette rage intellectuelle? Et j'ajoute aussi humaine, il me semble, envers la position exprimée à cet égard par Agamben.
Parce que je pense que la factualité, les faits sont fragiles. C'est par là que j'ai ouvert mon autre livre, La fragilité des faits. Et si les philosophes eux-mêmes les engloutissent dans des théorisations folles, c'est gravissime. Et vous savez, le début du livre de Giorgio Agamben sur Auschwitz dit « Je vais donner dans ce livre, je le cite, la marque vraie d'Auschwitz, ce qui est vrai là-bas, comme s'il y avait du faux, vous voyez ». Ce qui est important pour lui, pour l'histoire. Et la question n'est pas les faits. Il le dit explicitement. La question, ce n'est pas les faits. Ah oui ? D'accord. Il paraît que ce livre était censé être contre le négationnisme. Et là, voilà, un philosophe dit, les faits, ce n'est pas important. C'est la vérité d'Auschwitz qui m'intéresse. Je trouve ça très grave. Et le fait est qu'il n'a pas du tout bossé. Il y a quand même des historiens. Il y a une historiographie sur Auschwitz. Il dit des choses... arbitraire. Il considère notamment que la mort industrielle, où les gens sont à peine arrivés des wagons à bestiaux, où ils voyageaient, qui sont allés directement à la mort, c'est moins intéressant que la figure du déporté qui a travaillé là-bas, qui n'a donc pas été sélectionné pour le gaz, comme on disait avant, et qui a survécu plusieurs mois et qui est décharné. C'est horrible, hein, oui. Il a bien raison de le dire. Mais enfin, comme si c'était plus important cela que les gens morts sélectionnés pour la chambre à gaz tout de suite.
Permettez-moi de souligner un point au début de ce chapitre-là. Comment complexifier la logique du camp? C'est-à-dire le camp d'extermination, vous l'expliquez très bien. Qu'il y a une complexité là que Agamben n'a pas du tout considérée. Et donc, vous faites référence aux faits pour montrer qu'il y a une hyper-simplification qui lui porte, bien sûr...
Il y a trois camps à Auschwitz. Il y a Auschwitz 1, qui était un camp de concentration et de travail. Auschwitz 2, c'est Birkenau. Et c'est à Birkenau aussi, outre les chambres à gaz, qu'il y a eu les expérimentations médicales de Mengele. Et puis, il y a Auschwitz 3, Monowitz, qui était un camp de travail. C'est là où a été Primo Levi, c'est là où a été Kertész. Et c'est là qu'on travaillait pour cette industrie caoutchouc, la Buna. Beaucoup de déportés. Et évidemment que c'est dans les camps qui n'étaient pas d'extermination qu'on rencontrait la figure du musulman.
Comme il l'appelle, oui.
On l'appelait comme ça à Auschwitz, mais il n'est d'ailleurs pas du tout curieux de savoir d'où venait cette appellation. Lui qui aime tellement la philologie, là, tout d'un coup, c'est évident que c'est une référence religieuse. Alors que je ne dis pas que ça ne faisait pas référence à ces gens dans des sortes de robes qui étaient tout le temps par terre pour essayer de trouver quelque chose à manger, comme s'ils étaient agenouillés. Mais enfin, il y a beaucoup de choses dans le mot musulman, qui est du yiddish, et d'ailleurs, dont le pluriel n'est pas musulmanen, ce qui voudrait dire vraiment
comme
les musulmans.
Préciser, oui.
C'est musulmaner, ce qui veut dire les hommes du musul. Il y a une étrangeté de ce mot. Il est plus complexe que ce que dit Agamben. Mais Agamben s'en fiche de tout ce que je viens de raconter là, depuis 1 minute 30, là, où j'essaie de vous donner les faits d'Auschwitz et les conditions diverses des gens qui y sont arrivés. Lui, il veut une théorie de l'histoire. Il veut montrer qu'à Auschwitz a commencé la rédemption de l'Occident. Donc il cherche une figure messianique. Bon, moi, vous voyez, pourtant, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Chaque fois que j'en parle, je suis sans voix.
Oui.
Et je ne comprends pas pourquoi, à part un très bon livre de Claudine Caron et Philippe Ménard, Agamben à l'épreuve d'Auschwitz, il n'y a pas eu de révolte des philosophes à l'égard de ce qui est écrit là. Agamben a de plus en plus de succès. Mais ça suffit. Enfin, je veux dire, c'est une honte pour le travail philosophique.
Mais disons, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça dit quelque chose de notre époque, n'est-ce pas?
Bah oui, ça dit
quelque chose de notre époque, peut-être. Et dernière chose, alors, on ouvre un petit moment à quelque chose de positif dans le sens de constructif. Alors, il y a, j'adorais l'expression que vous avez utilisée, les pestifères.
Les pestiférés.
Les pestiférés, ouais. Pardon. Ennemis, disons, de la pensée théologico-politique qui nous porte à dire qu'est-ce que les défenseurs de la perspective théologico-politique n'ont pas compris ou n'ont pas volontairement oublié. Et donc, il y a une sorte de trilogie, disons comme ça.
La trilogie classique, celle qui a été tellement à la mode et qui maintenant est complètement refoulée, c'est Nietzsche, Freud et Marx. Et les sciences sociales, ce serait évidemment trop long, mais je pense que notre époque est dans la revanche. dans la revanche à l'égard de ce que cette trilogie a produit d'incontestablement fécond dans l'histoire de la pensée. Et je pense qu'on n'avons pas le temps de... Enfin, il faudrait vraiment montrer dans le détail, mais ce que je dirais simplement, c'est qu'une philosophie qui se coupe totalement des sciences sociales, des acquis de la psychanalyse, de la réflexion nietzschéenne et marxiste sur l'existence et l'existence sociale, est une philosophie qui parle toute seule.
Merci Géraldine Mulman.
Alors, chers auditeurs d'Aligre FM, c'est maintenant l'heure de notre rubrique Flânosophie, une création philosophico-poétique ou poético-philosophique proposée et écrite par Michele Saporiti. Alors Michele, je te laisse nous faire flânosopher.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique, ce petit divertissement de philosophie au présent qui s'appelle Flânosophie. L'invitation est toujours la même, essayez de mettre de côté votre portable, mais aussi la liste de choses à faire, encore pour un instant. Nous sommes arrivés déjà à la 8e Flânosophie depuis le début de notre rubrique, et dans cette année de philosophie au présent, après avoir flânosophé dans les empreintes, la poussière et les cadres, aujourd'hui il est temps d'explorer un espace qui est d'habitude sérieux, un domaine très délicat qui influence le destin des femmes et des hommes, la politique. Et nous ne pouvons que dédier la flânosophie d'aujourd'hui à notre invité qui sait très bien ce qu'est la politique, Géraldine Mulman.
Merci.
Mais comment essayer d'explorer la politique à la manière de flânosophe? Comment représenter la complexité des interactions et de dynamiques que la politique a la capacité de produire? Ce que vous allez entendre est une histoire qui a été gardée secrète pendant très longtemps et vous demandera un peu d'imagination. C'est bien en France qu'une curieuse querelle se produit entre le ministère de la poésie et le ministère de la philosophie. Dans les années... Mais poursuivons la narration. Je suis sûr que vous n'êtes pas au courant du fait qu'un certain nombre de poètes, dont le même ministre de la poésie, avait évoqué l'importance d'observer l'écume des vagues de la mer ou des rivières afin de promouvoir le développement d'une sensibilité poétique dans la citoyenneté. Je cite la circulaire du ministère de la poésie numéro infini plus 1. Tout comme il est très important de faire des exercices physiques, il était aussi important de cultiver votre jardin poétique. Dans cette pratique quotidienne, si la mer ou une rivière n'était pas disponible, nous suggérons d'essayer avec les nuages. Les vagues de la mer ou d'une rivière comme les nuages? Alors c'est bien le ministère de la philosophie qui intervient pour limiter la confusion conceptuelle que les poètes étaient en train de créer dans la tête des citoyens. C'est bien dans une interview au journal Le Monde postmoderne que le ministre de la philosophie prononce des mots si durs. Nous demandons officiellement au ministre de la poésie d'éclairer les indications fournies. Premièrement, la signification de cultiver votre jardin poétique qui fait penser à Voltaire. Deuxièmement, la signification d'écume par rapport à une vague. Est-ce que l'écume d'une vague de la mer produit-il la même sensibilité poétique que l'écume d'une vague d'une rivière? Et surtout, dernièrement, la confusion conceptuelle entre les vagues et les nuages est absolument inacceptable. Même le pire lecteur de Platon sait qu'il faut se méfier des essences des objets qu'on utilise. Le chaos était en train de devenir explosif, avec des accusations mutuelles entre le ministre de la poésie, qui avait renommé polémiquement son collègue philosophe le ministre de la caverne, et le ministre de la philosophie, qui avait appelé son collègue poète le ministre mousseux. Même le Haut Conseil d'État pour les affaires esthétiques n'était pas capable de régler la question. D'un côté, le Haut Conseil écrivait: avec son langage, le ministère de la poésie a exercé ses prérogatives propres en appelant la sensibilité qui est en nous. De l'autre côté, le ministre de la philosophie a lui aussi exercé ses prérogatives propres en proposant un exercice de nettoyage linguistique et conceptuel. Voilà la diplomatie et l'équité parfois sophistes des juristes, chers flânosophes. Mais c'est bien la plus innocente des créatures qui, sans aucune préparation, ni poétique ni philosophique, était devenue célèbre pour avoir mis fin à la querelle de l'écume, comme les journaux de l'époque l'avaient appelé. Voici la petite lettre que Marcel, 7 ans, envoie au ministre. Cher monsieur le ministre de la poésie, cher monsieur le ministre de la philosophie, je m'appelle Marcel, j'ai 7 ans, je vous rouge et j'ai la chance de pouvoir regarder la mer, une rivière et les nuages. Je me permets de vous écrire parce que je crois que la question est bien plus simple que vous ne le pensez. Les vagues sont les nuages de la mer et des rivières, et les nuages sont les vagues du ciel, dont l'écume change la couleur dans chaque instant de la journée. Pour trouver cette solution, j'ai utilisé l'imagination et la pensée, et je leur demandais de trouver un compromis dans ma tête pour que ma sensibilité et ma rationalité puissent faire la paix. Je vous suggère de faire la même chose. Et voilà, cher philosophe, cette histoire secrète sur la politique qui, grâce à la lettre de Petit Marcel, nous apprend ce que la politique intelligente est et constructive, l'art complexe du compromis dont nous avons besoin pour ne pas nous perdre dans les disputes et des conflits qui ne mènent à rien sauf à se méprendre l'un sur l'autre.
Merci beaucoup, Michele, pour cette flânosophie qui nous a renvoyé directement dans la caverne de Platon également, hein, où il y a peut-être la confusion aussi entre un effet de réel et un réel sans effet. Alors, pour terminer notre émission Philosophie au présent, nous avons l'habitude de faire un petit questionnaire pas rationnel, un questionnaire express dont le principe est qu'il y a 5 questions auxquelles il faut apporter une réponse courte. Et comme aujourd'hui, nous avons une représentante de la jeunesse dans ce studio, la lycéenne Lital Benetas, nous en avons profité pour lui demander de reformuler un petit peu certaines questions en fonction de ses préoccupations. Alors Lital, que souhaitez-vous demander à Géraldine Mühlmann ?
Alors en effet, j'ai préparé quelques questions. La première, comment avez-vous su ce qui vous plaît aujourd'hui et quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour qu'ils puissent le découvrir aussi ?
Je mets beaucoup de temps à savoir ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'ai fait beaucoup d'études, largement aussi pour différer la réponse à cette question. Je ne sais pas que j'en sois pas fière, mais je veux dire, je vois aussi qu'il y avait du mal-être dans ma quête de savoir. Et je dirais aux jeunes d'aujourd'hui de toujours écouter la petite voix en eux qui leur dit « Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petit ?»
C'est super. Et du coup, la deuxième question, quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et si vous l'aviez fait, pour lui dire quoi ?
Personnage que j'aurais aimé rencontrer.
Oui, tout à fait.
Churchill.
D'accord. Quel est votre plus grand espoir ?
Que les humains s'entretuent moins.
Quatrième question. Si vous étiez ministre de la Culture, quelle serait la première décision que vous prendriez ?
Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas.
C'est pas grave, pas de souci. Et pour terminer enfin, quelle est la chose la plus irrationnelle à laquelle vous avez déjà pensé ?
C'est pas si irrationnel que ça, mais si le monde va trop mal, il faudra créer des petites communautés d'humains qui ont envie de vivre autrement. Ce sera peut-être le renouveau des utopies du passé, des petits lieux où on essaiera de tester des autres manières de s'organiser.
Merci beaucoup, Madame Mühlmann.
Voilà, chers auditeurs d'Aligre FM, nous arrivons à la fin de notre émission Philosophie au présent. Je remercie à la technique Enrico Mastro Giovanni, assisté de Armand et Thomas, qui ont permis tous les trois la réalisation de cette émission. Je remercie également notre invitée Géraldine Mühlmann.
C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez lu avec attention. C'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à un auteur.
C'était vraiment un plaisir.
Un plaisir,
vraiment.
Oui.
Et je rappelle justement vos deux derniers livres, publiés tous les deux aux éditions Belles Lettres, hein, sur lesquels on s'est particulièrement appuyé pour faire cette émission. L'imposture du théologico-politique. publié en 2022, et Pour les faits, publié en 2023, que je recommande absolument et urgemment, hein, si on veut vraiment essayer de comprendre ce qui se joue dans notre rapport à l'actualité. De toute façon, chers auditeurs, vous pourrez retrouver toutes ces informations avec notre podcast sur le site d'aligrefm.org. La prochaine émission aura lieu en direct sur 93.1 le samedi 27 avril 2024 à 16h. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Au revoir Géraldine.
Au revoir.
Au revoir, au revoir Stéphanie. Au revoir Madame Le Moine. Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.